Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast sur l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et c'est la dernière de cette année 2023. Et pour la dernière, on démarre évidemment avec la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui a connu une semaine frustrante. Après son nul face à Dortmund, un nouveau nul à Lille, un partout, cédé à la dernière seconde ou presque. Ce PSG est-il suffisant? On posera la question à Elton Mokolo. On ira ensuite en Angleterre retrouver Philippe Auclair qui s'attend à des fêtes très chargées dans le Royaume. Liverpool, Arsenal, qui ressemble plus à un champion? On lui posera la question alors que les deux clubs s'affrontent samedi. Et on terminera enfin ce numéro par un détour par l'Italie. Guillaume Maier-Pacini nous parlera du duo Thuram-Lautaro, peut-être le meilleur d'Europe, en tout cas celui qui dompte l'Italie et qui permet à l'Inter de planer au-dessus de la Serie A. Vous connaissez le petit topo, Tour d'Europe est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute tous les lundis. Si vous préférez la vidéo, les meilleurs moments de cette émission seront à retrouver sur eurosport.fr et sur l'application. Tour d'Europe, vous connaissez le menu, alors c'est parti. Et allez, on démarre ce Tour d'Europe avec la Ligue 1 et Elton Mokolo. Comment ça va, Elton ?
Bonjour Cyril, et j'espère que tout le monde va bien. C'est un week-end riche en enseignements en ce qui concerne la Ligue 1.
Ouais, alors il y a surtout en ce 18 décembre des mauvais souvenirs, puisque ça fait un an que l'équipe de France a perdu cette finale. Vous pouvez aller sur Eurosport où Martin Mosnier vous a raconté notamment son opinion sur ce match. Un an après, on n'a pas vu le même niveau cette semaine en Ligue 1. Et ce week-end, on va peut-être commencer par les deux déceptions que sont Monaco et Nice, qui sont normalement lancés aux trousses du Paris Saint-Germain, mais qui ont subi des défaites surprenantes. Monaco face à l'Olympique Lyonnais et Nice face au Havre. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est la fin de l'état de grâce pour ces équipes-là, ou est-ce que on va encore les voir en deuxième partie de saison et truster le podium longtemps?
Alors, on parle de deux défaites différentes, mais deux défaites quand même. Alors, Monaco face à l'Olympique Lyonnais qui était quand même lanterne rouge. Ouais. Et c'est vrai que tu perds dans les dernières minutes. Nice qui a été étrié par l'étonnant Le Havre, et ça, c'est quand même à signaler. De là à dire, est-ce que c'est la fin de l'état de grâce? Je dirais oui et non. Oui et non, par rapport au fait qu'il y avait une période d'euphorie légitime pour Monaco et surtout pour l'OGC Nice.
Pour Nice derrière.
Et non, parce que les objectifs restent intacts en ce qui concerne les deux équipes, à savoir que Monaco continue d'être une équipe placée pour le podium et l'OGC Nice est encore en course pour le podium. Quand on regarde la réalité de la Ligue 1 et la capacité à enchaîner des séries positives, j'ai quand même envie de rester optimiste aussi bien pour Nice que pour l'AS Monaco, et surtout quand on connaît la capacité qu'a l'AS Monaco à enchaîner une série positive. On l'avait vu la saison dernière, même si au final il termine pas européen, la saison d'avant, j'ai quand même envie d'être optimiste pour l'AS Monaco.
Nice, j'insiste peut-être là-dessus, parce qu'effectivement ils étaient dans une forme d'euphorie défensive où chaque geste défensif était célébré comme un but, et une fois qu'ils ont cédé ça, et on l'a vu, prendre 3 buts face au Havre qui a très bien préparé son match, certes, mais est-ce que le fait que ce plan de jeu s'effrite un petit peu, c'est pas beaucoup plus dangereux pour Nice qui marque pas beaucoup de buts quand même?
Évidemment, c'est un test de caractère parce que ça ébranle tes certitudes, voir le Havre en mettre 3 forcément. Ouais. Tu te dis. Alors, il peut y avoir la théorie Giroud, à savoir, vaut mieux prendre une fois 3 buts plutôt que 3 fois 1 but à chaque match. Enfin, sur les 3 prochains matchs, mais maintenant pour l'OGC Nice. Au moment justement de se dire que l'année 2024 va être beaucoup plus attendue et donc forcément ton animation défensive sera beaucoup plus challengée, et ben c'est une invitation à quoi? C'est une invitation à travailler aussi bien offensivement, c'était la marge de progression, mais aussi défensivement, parce qu'il n'y a rien d'acquis au moment d'avoir sa place pour le podium.
Il y a une autre équipe qui est un petit peu dans le dur en ce moment, c'est le Stade de Reims de Will Steel battu par Lens. Will Steel qui était au cœur d'une grosse actualité cette semaine avec des informations venues de l'équipe L'équipe, selon laquelle Will Steele avait initié un contact avec les dirigeants de Sunderland pour potentiellement rejoindre Sunderland avec la crainte de voir son équipe être décimée pendant la Coupe d'Afrique des Nations et pendant la Coupe d'Asie. Est-ce que Will Steele est ingrat?
J'ai l'impression que Will Steele, c'est l'enfant qu'on a attrapé avec la main dans le pot de confiture. Ouais. Parce que, voilà, évidemment, il s'est défendu en disant qu'il était à Londres pour des raisons professionnelles. Ouais. Des raisons exactement personnelles, mais on a l'impression que Will Steele joue sur le mot. Est-ce que Will Steele est ingrat? Après, c'est la réalité du football ouais, d'aujourd'hui, aussi bien pour les joueurs, mais également les entraîneurs. Parce qu'on peut évoquer des exemples d'entraîneurs qui ont été prolongés un été et l'hiver suivant, ils ont été virés. Donc, à un moment donné, Will Steele, il a une cote et il en est bien conscient. Et quand bien même il l'a prolongé à l'été, jusqu'à l'été 2025, et bah, à un moment donné, quand il est courtisé, enfin, même s'il n'a pas été vraiment été placé en tant que priorité par Sunderland, et bah, Will Steele fait valoir sa cote. Mais maintenant, j'ai envie de penser que les excuses avancées par Will Steele, enfin, les excuses qui seraient avancées, sont quand même fort de café. Parce que quand on parle notamment de la Cannes qui affaiblirait de facto l'équipe de Reims, j'ai quand même envie de répondre que Reims s'est aussi renforcé en prévision de la Cannes. On a quand même à Reims, et je précise à Reims, un effectif qui est doublé, voire triplé, sans compter notamment les jeunes du centre de formation qui pourront arriver, notamment via la Pro 2. Ouais. Donc Will Steele, j'ai envie de dire, ce serait bien qu'il s'inscrive dans la durée du côté de Reims, parce qu'il n'y a rien d'acquis. Reims est actuellement 8e de Ligue 1. Ouais. C'est un très bon classement. Ouais, j'insiste là-dessus. C'est un très bon classement. Mais ce serait bien d'avoir un Reims qui termine avec le même entraîneur et que Will Steele peut afficher des velléités de départ, mais l'été prochain, si possible.
Ouais. On va parler maintenant du leader de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain, qui pensait obtenir une victoire, j'allais dire tranquille, peut-être pas tranquille, mais en tout cas sereine face à Lille dimanche. Mais le PSG a été rattrapé par ses démons dans les 10 dernières minutes et cette relance abracadabrantesque hasardeuse plein axe de Marco Asensio. Donc Paris a été rejoint par Lille dans le Money Time. Et cette question un petit peu parce qu'on a... Voilà, les attitudes des Parisiens sur les 10 dernières minutes étaient difficilement compréhensibles. Est-ce que ce PSG te semble suffisant, Elton?
Alors déjà, on a une information qui est quand même importante. Avec les défaites cumulées de l'AS Monaco et de l'OGC Nice, le PSG est quand même champion d'automne.
Ouais.
Ça, c'est quand même à signaler. Mais c'est vrai qu'on a dans l'idée que ça ne va pas suffire pour le PSG. Maintenant, pour répondre à la question de manière précise, je dirais que le PSG a moins de marge de manœuvre que les saisons précédentes à partir du moment où il y a d'autres qualités dans cette équipe. Et moi, effectivement, dans le dernier quart d'heure, il y a beaucoup de suffisance qui a été affichée. Alors, on peut pardonner le PSG le fait d'avoir un défaut de réalisme, un manque qualitatif. Mais par contre, quand on connaît Luis Enrique et quand on connaît l'attitude que devraient avoir les équipes de Luis Enrique, non, il n'y a pas de concession à faire sur ce PSG-là. Et forcément, c'est décevant. Hakimi s'est prononcé notamment du côté de Prime Video en disant qu'on n'a pas le droit de finir comme ça. Je suis totalement d'accord avec Hakimi, à savoir que c'était un match qui était très important. Et quand même tu prends un point sur l'OGC Nice et contre l'AS Monaco, il y a quand même une déception qui est légitime, il y a une déception à nourrir, précisément parce que dans le comportement, tu n'as pas tout fait. J'ai en référence une action de Kylian Mbappé qui perd un ballon et qui se désintéresse complètement de l'action. Il y a l'action d'Asensio. C'est des scories qui sont quand même évitables pour le PSG et qui t'empêchent de ramener 3 points très importants de Lille. Bon, même si Lille a pris 5 buts sur les 2 derniers mois, mais quand même, quand on regarde le PSG, il y avait moyen de mieux faire, notamment sur le plan de l'attitude.
C'est marrant parce que sur la semaine écoulée, tu as parlé de Mbappé, on l'avait vu revendiquer en fin de match face à Dortmund qui comprenait pas trop le choix de Luis Enrique de geler un peu la fin de match. Là, à l'inverse, on l'a vu complètement détaché, mais ça n'a pas été le seul. Et moi, ce qui m'interroge, c'est de savoir, on a beaucoup parlé cet été avec les départs de Messi, de Neymar, du fait que Paris devait changer de logiciel, devait changer d'ADN et qu'on aurait des joueurs concernés. Est-ce que au fond, Paris a finalement toujours cet ADN parfois un petit peu... de ne pas être chahuté et de jouer parfois un petit peu plus de manière léger sans être à 100 000% à chaque match.
Bah, c'est une habitude qui doit être enlevée du côté du PSG. Okay. C'est tout le défi cette saison, allier la victoire, le jeu et le comportement. Ouais. C'est trois choses qui sont quand même difficiles dans le football de haut niveau et à répéter dans la durée parce qu'il y avait déjà une alerte face à Brest où à un moment donné, tu passes complètement à côté et tu n'es pas loin de faire match nul. À la fin, tu marques avec le but de Kylian Mbappé, rebelote du côté du stadium de Villeneuve-d'Ascq face à Lille. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est une attitude à enlever. Et ça passe par quoi? Ça passe par un investissement de tous les instants, un engagement de tous les instants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour le PSG. Et que, quand bien même, tu as quand même fait une bonne première partie de saison, parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG a quand même 37 points. Le PSG peut atteindre la barre des 40 points. On attend du PSG, au niveau de l'attitude, un engagement de tous les instants.
Pourquoi, quand on écoute Luis Enrique, depuis le début de saison, il est très positif en conférence de presse, souvent sur l'attitude de ses joueurs. Alors, il y a eu parfois des petits épisodes avec Kylian Mbappé, mais il dit souvent que j'aime beaucoup ce groupe, j'aime beaucoup l'investissement qu'ils mettent au quotidien. Pourquoi Luis Enrique n'est pas un peu plus direct, peut-être face aux médias, pour dire, bah là, alors il dit parfois, j'aime pas les fins de match où il n'y a pas de contrôle, mais c'est peut-être pas suffisant pour faire passer des messages et dire, là, les gars, il va falloir être beaucoup plus investi et concentré. Pourquoi on a un Luis Enrique, presque trop gentil.
Alors déjà, j'ai parlé du Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq, que ça m'a rappelé les souvenirs d'avant, alors qu'évidemment, c'est le stade de Pierre-Mauroy. Maintenant, pour revenir sur Luis Enrique, j'ai le sentiment que dans les moments, entre guillemets, compliqué, c'est-à-dire une défaite comme face à Newcastle ou alors un match nul qui serait quand même dérangeant. Ouais. Luis Enrique est davantage dans la défense de son groupe parce que hier il s'est plutôt attardé sur les 80 premières minutes qui ont été vraiment à l'avantage du PSG et les 10 dernières minutes, même si encore une fois il l'a pas ignoré, il a quand même atténué ça. Mais c'est vrai que du côté de Luis Enrique, de par rapport à ce qu'on attendait de lui, on attendait de lui que ce soit davantage un coach qui fasse beaucoup plus de rappel à l'ordre. Exactement. Mais j'ai vraiment le sentiment que Luis Enrique est dans la protection de son groupe. Et c'est davantage dans la victoire qu'il va s'exprimer avec des termes un peu plus revendicatifs. Ouais. J'ai référence à Kylian Mbappé lors du match contre Reims. Et par contre, dans les moments entre guillemets un peu plus compliqués, même si encore une fois, il faut préciser, c'est un match contre le 4ème de Liga. Sais très bien que c'est le PSG. Je sais très bien que le PSG est attendu à chaque match avec une victoire à la fin et si possible avec la manière, mais encore une fois, Luis Enrique à cette approche-là, tout n'est pas perdu entre guillemets pour le PSG et qu'il faut davantage signaler l'investissement sur les 80 premières minutes.
Ouais, je parlais aussi beaucoup de la Ligue des Champions finalement, où il y a eu deux défaites qui étaient un petit peu embarrassantes et où Luis Enrique a toujours semblé soit prendre un peu la foudre pour lui, soit ne pas vouloir pointer du doigt ses joueurs. On va revenir sur la Ligue des Champions parce que malgré tout, c'est quand même l'enseignement majeur de cette semaine avec Paris, cette qualification en 8e de finale. Il y a le tirage au sort qui va avoir lieu dans quelques minutes. Luis Enrique a dit, peu importe la deuxième place, on sera bien meilleur en février. Est-ce que tu crois à cette thèse-là, sachant qu'on voit quand même que sur le papier, bah voilà, Randal Kolo Muani dans une équipe de possession, ça fait moins sens qu'un Randal Kolo Muani dans une équipe de transition. Est-ce que l'effectif est bâti pour ce que veut faire Luis Enrique? Est-ce que tu crois vraiment à une montée en puissance possible du Paris Saint-Germain?
La déclaration de Luis Enrique en décembre 2023 me fait penser à une déclaration de Luis Enrique en décembre 2014 quand il était entraîneur du Barça. Ouais. Il avait dit la même chose en expliquant qu'il y a beaucoup d'équipes qui voudraient éviter le Barça. À l'époque, ça prêtait à sourire parce que même si le Barça avait terminé premier devant le PSG, le Barça était à un moment donné éloigné du Real Madrid. Bon, finalement, ils ont fini avec un triplé. Donc, je ne dis pas que le PSG va faire un triplé en ce qui concerne cette saison, mais pour autant, Luis Enrique est totalement dans l'idée qu'il y aura un autre PSG, un PSG différent et beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus compétitif au mois de février, précisément parce qu'il y aura du travail, il y aura davantage de conviction dans ce que le PSG doit faire. Tu as parlé de Randal Kolo Muani, je pense que Randal Kolo Muani, pour peu qu'il soit investi, pour peu qu'il travaille, à l'image de ce qu'il a fait face à Dortmund, bon, même si encore une fois il a eu énormément
d'efficacité, mais en tout cas il y a eu des choses à porter.
En tout cas, il y a eu des choses, notamment dans sa capacité à percuter, notamment dans sa capacité à apporter la dernière passe. Je fais référence à la passe pour Lee Kang-in, mais il y a eu un déchet important. Et je pense que pour peu que le PSG soit suffisamment armé, outillé, avec beaucoup plus de connaissances du logiciel de Luis Enrique, effectivement, on aura un PSG qui sera plus compétitif et plus fort au moment d'affronter cette échéance européenne. Mais maintenant, encore une fois, Cyril, je te dis ça. C'est beaucoup plus de la théorie que de la pratique. Ouais. Et ça, c'est une nuance, mais qui est très importante au moment d'évoquer ce PSG qui reste en chantier. Mais c'est un PSG qui, encore une fois, est premier à la fin de la phase aller.
Eh ben, merci beaucoup, Elton, pour ce point très précis sur le Paris Saint-Germain. Rendez-vous sur Eurosport pour connaître, évidemment, l'identité du club qui affrontera le Paris Saint-Germain en 8e de finale. Nous, on va quitter la France et on va aller en Angleterre. Et allez, on atterrit en Angleterre, on retrouve Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume. What's up, my dear Philippe?
Eh bien, bonjour à vous. Bonne tasse de thé à tous et à toutes.
Bien sûr.
What's up? Bah écoute, c'est marrant, c'est un week-end où il n'y a pas eu d'énormes surprises, mais il s'est passé des choses très intéressantes et sans doute qui vont avoir un gros impact sur la suite de la compétition. Même si on n'a pas eu d'énormes chocs, hein. Le fait que Liverpool fasse match nul contre Manchester United dans un derby, c'est pas vraiment un choc. Le fait que Crystal Palace fasse des misères à City, on l'a déjà vu. Le fait que Arsenal s'impose, etc., c'est pas nouveau. Mais tu mets tout ça ensemble et finalement, ça commence à prendre forme.
Ouais, alors on va parler longuement d'Arsenal et de Liverpool juste après. On va peut-être revenir d'abord sur l'événement du week-end. Malheureusement, c'est le malaise de Tom Lockyer. J'espère que je le prononce bien sur le terrain de
Locker.
Bournemouth, le capitaine de Luton. Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Écoute, arrêt cardiaque, on sait que c'est malheureusement quelque chose dont, auquel les footballeurs sont malheureusement prônes, plus souvent que le reste de la population, du fait de leurs exertions sur le terrain, sans moindre doute. Et donc Locker, qui avait déjà eu un accident du même type l'an dernier, mais il avait ensuite été soigné, il avait eu une opération. On avait, semble-t-il, identifié le problème cardiaque qui faisait qu'il avait eu ce malaise. Qu'est-ce qui est plus qu'un malaise? Il aurait pu laisser sa vie. Et il était donc revenu. Il était même revenu en équipe du Pays de Galles. Et puis là, donc, il s'est effondré. Immédiatement, on a su qu'il s'agissait quelque chose de très, très grave. Il est encore à l'hôpital. Il est dans un état stable. Il est conscient. Mais il est passé tout près de la mort. Et en fait, si les stades anglais n'étaient pas équipés comme ils le sont maintenant, et si les protocoles médicaux et process médicaux n'avaient pas été mis à jour comme ils l'ont été, eh bien, nous aurions un autre joueur qui aurait sans doute succombé sur la pelouse. C'est un sujet extrêmement douloureux et extrêmement difficile à traiter, mais bon, que le football devrait peut-être prendre encore plus sérieusement qu'il ne le prend. D'ailleurs, ça sera le sujet de ma chronique cette semaine, hein, Cyril, parce que malheureusement, il ne s'agit pas d'un incident isolé. Il y a une stat absolument effarante que j'ai lue justement ce week-end, posant des questions sur la fréquence de ces accidents. Et une étude a été faite par l'AFA qui recensait 647 de ces décès parmi des joueurs de football.
Ah oui, ok.
Sur une période relativement bref. Donc, c'est un vrai gros sujet. Fort heureusement, l'assistance était là. Locker on a pu venir à son secours. Le match a été abandonné, comme on s'en doute, les joueurs n'étaient pas dans un état
Ouais, pour jouer.
propice à continuer. Bon, souhaitons lui bonne chance et souhaitons que les clubs de football prennent conscience et toutes les ligues de football prennent conscience de la gravité de ce problème et de la fréquence avec laquelle ces accidents arrivent sur les terrains.
Yes. On va revenir au sportif Philippe, puisqu'il s'est passé des choses. Donc, ce week-end en
Ouais.
Première Ligue, Arsenal s'est imposé face à Brighton. Liverpool a été tenu en échec par un Manchester United minimaliste, on va dire, mais au moins solidaire, ce qui n'était pas si fréquent cette saison. Et pendant ce temps-là, Manchester City s'est encore pris les pieds dans le tapis face à Crystal Palace, ce qui nous donne cette
Incroyable.
nouvelle hiérarchie au sommet de la Première Ligue. Arsenal leader, 39 points. Liverpool à 38, Aston Villa à 38 et Manchester City à 34. Je sais que tu vas me dire non, mais je te pose quand même la question, Philippe. Est-ce que c'est trop tard pour Manchester City d'ores et déjà avec 5 points de retard sur Arsenal?
Si on ajoute Aston Villa et Liverpool à l'équation, peut-être bien.
Ah.
Parce que le problème, c'est ça. Le problème, c'est que si c'était un mano à mano, Arsenal-Manchester City, comme on a eu la saison dernière, je te dirais, bon, vu les ressources de City, Kevin De Bruyne va revenir, ça va faire un bien immense à cette équipe. John Stones est de retour. L'effectif va sans doute être renforcé, j'imagine, encore au mois de janvier. Alors certes, ils ont une certaine Ligue des Champions qui va les occuper beaucoup, mais ça va occuper beaucoup Arsenal en même
Ah
temps.
ouais, tout à fait.
Mais d'un autre côté, je me dis, ouais, si c'était un mano à mano, ça pourrait être une répétition du scénario de l'année dernière. Par contre, tu vois Liverpool et tu vois Aston Villa qui sont là. Eux, ils n'ont pas Ligue des Champions, ils ont les Ligues Europa, hein, ils ont les compétitions européennes, ce n'est pas le problème, mais qui ne va pas les occuper comme Arsenal et Manchester City auront les yeux sur l'Europe. Et tu te dis, contre un adversaire, je parierais sur Manchester City. Avec deux, je parierais pas contre. Avec trois, je me pose des questions. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et ce sont des écarts très faibles, hein. Ça peut
Ouais, bien sûr.
basculer en l'espace de 2 journées, c'est rien du tout. Il
Surtout
y a
dans
encore
cette
des
période
très
de
gros.
l'année où on sait que c'est
Voilà,
propice à des effondrements.
tu sais que c'est le 23, donc le 23 décembre. Ce 23 décembre, il y a un certain Liverpool-Arsenal dans lequel un des deux candidats pour le titre va laisser des plumes. Mais d'un autre côté, 4 jours plus tard, Manchester City va à Everton, qui vient de faire sa quatrième victoire consécutive, dans un Goodison Park en feu. Tu te dis, pas évident. Mais pour répondre à ta question, oui, je te dis, en effet, ça commence à. On est presque à mi-chemin, hein, on n'est plus qu'à deux matchs de la mi-saison. S'il y avait qu'un seul adversaire, je dirais non, avantage toujours Manchester City. Là, il y en a trois. Et c'est plus compliqué de faire la course en partant de derrière contre trois adversaires comme ça.
Alors effectivement, on s'est concentré sur le calendrier et on a vu ce match entre Liverpool et Arsenal samedi. On va se concentrer sur ces deux équipes-là finalement, Philippe, parce que bon, Aston Villa réalise une saison époustouflante, mais si on devait miser tout notre PEL, peut-être qu'on les mettrait davantage sur les Gunners et sur les Reds que sur les Villains. Est-ce que entre ces deux équipes-là, toi, tu vois une équipe plus forte que l'autre? Je ne sais pas si le terme est adapté, mais en tout cas plus complète et plus résistante dans la durée que l'autre.
Alors, j'en vois une qui fonctionne mieux, qui est Arsenal.
D'accord.
Très impressionnant, j'ai trouvé. Parce qu'en plus de ça, Arsenal, depuis le début de la saison, c'est solide, 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 solide. Tu vois d'ailleurs, les stats défensives d'Arsenal sont les meilleures du championnat.
Ouais, impressionnant
Au
comment
niveau
ils ont
de.
muselé Brighton quand on sait que Brighton développe quand même beaucoup d'occasions par match.
Exactement.
Là, c'était
Là,
époustouflant
ils
ce
en ont
qu'ils
eu
faisaient.
une. Il y en a une qui a été. Et en fin de match, le score était déjà de 1-0 et c'est tout. Les stats défensives sont excellentes. Certains des joueurs clés d'Arsenal étaient un petit peu en deçà au début de la saison, comme Martin Odegaard. Tu as vu le Odegaard qu'on a vu contre Brentford?
Magnifique.
C'était le Odegaard de la saison précédente, c'est absolument magnifique. Declan Rice est aussi bon que ce qu'on pouvait espérer,
Ouais,
voire meilleur.
c'est ça
Ce qui me
exactement.
fait penser quand même, ce qui me fait penser quand même que l'Angleterre avec Jude Bellingham et Declan Rice à l'Euro 2024, on aura l'occasion d'en parler l'année
Oui.
prochaine. Mais si jamais ils font pas un coup et qu'ils nous disent, oh, notre milieu de terrain est une zone problématique, là, je pense qu'on peut-être pouvoir commencer à leur dire, les gars, arrêtez. Mais je dirais qu'au niveau potentiel et au niveau la qualité du jeu qui est développé, Arsenal pour moi est devant Liverpool en
Ok.
ce moment. Et défensivement également me paraît plus solide. Malgré le retour en forme de Virgil van Dijk, cette défense de Liverpool, je ne la trouve pas encore totalement, totalement convaincante. Et au passage, bon, on va en parler, mais mine de rien, pour moi, la plus belle occasion du match du derby contre Manchester United, c'est celle de
Le but,
Højlund. Hein.
ouais. Tout à
Ouais.
fait.
Alors, ça aurait été quand même comique.
Ouais.
Et alors là, complètement, complètement contre le cours du jeu. Mais enfin, bref. Mais tu sens que cette équipe d'Arsenal, qui défensivement est super solide, elle n'est pas encore au top. Elle n'est pas encore au top, il y a encore des choses à régler. Il lui manque peut-être, sans doute, un deuxième avant-centre de très, très grande qualité. Edin Ketia, malgré toute cette bonne volonté, malgré le hat-trick qu'il a marqué il y a quelques semaines, ce n'est pas la classe de Gabriel Jesus et il y a personne derrière. Alors que tu regardes, oui, pour suppléer, tu regardes Liverpool, tu vois Gakpo, tu vois Diaz, tu vois Darwin. Bon, il y a largement Jota, il y a largement de quoi faire. À ce niveau-là, Liverpool est supérieur, mais au niveau de l'unité, Arsenal me paraît quant à moi plus solide. Et donc, je les mettrais un petit peu devant en ce moment, ce qui, franchement, me surprend moi-même. Mais, et franchement, si jamais je dis ça, c'est parce que c'est à cause de la progression de certains joueurs qui continuent. William Saliba est tout simplement aujourd'hui le meilleur arrière central de la Première Ligue, hein, disons-le tout net. Tu n'as qu'à voir le niveau des performances de Gabriel lorsque Saliba est là et lorsque Saliba n'est pas là.
Ouais,
C'est,
c'est sûr.
je dirais pas que c'est le jour et la nuit, je dirais que c'est le jour et le crépuscule. Mais parce qu'on va pas aller comme parce qu'il est quand même bon, Gabriel. Mais tu vois comment Martin Odegaard revient, Declan Rice encore une fois un des joueurs de la saison encore absolument magistral contre une belle équipe de Brighton et franchement il n'y avait pas photo, hein.
J'ai une question
Épatant.
peut-être sur Liverpool parce que bon, j'ai regardé le match face à Manchester hier. J'ai l'impression d'avoir une équipe de Liverpool beaucoup plus lisible qu'auparavant offensivement, beaucoup plus dépendante encore de Mo Salah, même dans son animation, pas qu'à la finition. C'est-à-dire que on voit Darwin Núñez parfois qui a le ballon, bah, le premier truc auquel il pense, c'est de le donner à Salah. Dans
Oui.
l'animation aussi, où c'est lui qui donne le tempo, alors il y a Alexander Arnold plus bas qui construit beaucoup de choses, mais est-ce que cette équipe de Liverpool. Est moins, enfin, elle est encore plus tournée autour de Mo Salah et donc est moins diverse que par le passé où il y avait Sadio Mané ou Roberto Firmino. Comment tu vois les choses?
Oui, Robert. Oui, Roberto, j'allais dire peut-être surtout Roberto Firmino, qui était quand même un joueur d'une incroyable subtilité pour trouver les espaces, les angles et tout ça. J'attends de voir éventuellement ce que Klopp va faire avec Gakpo, par exemple, qui est un joueur qui se plaît bien dans un rôle un petit peu plus reculé, qui pourrait peut-être apporter plus d'animation offensive. En ce moment, il pense plutôt, j'allais dire presque passer en force avec ces dynamiteurs que sont Diaz, Salah
Absolument.
et Darwin. Il leur manque toujours un petit peu de créativité dans l'entrejeu. Ça, c'est pas nouveau, on le sait. Même si Szoboszlai est une vraie réussite, même si McAllister, c'est très bon, il y a malgré tout, ils n'ont pas un Martin Odegaard, ils n'ont pas un Bernardo Silva, hein, ils n'ont pas un Kevin De Bruyne. J'allais pas dire, bon, ils n'ont pas un Boubacar Camara, si peut-être quand même. Mais il leur manque en effet un petit peu de fantaisie, d'imagination à ce niveau-là. Est-ce qu'ils sont encore plus dépendants vis-à-vis sur Mossala? J'irai peut-être pas jusque-là. Je dirais que aussi que l'absence de Andy Robertson
Pèse aussi, c'est sûr.
est quand même un joueur qui fait la différence. Ça pèse. Ils sont encore en phase de transition. Ils ont un milieu de terrain complètement nouveau par rapport à celui des années précédentes, hein, et il faut s'y faire. Mais malgré tout, regarde, ils sont là en haut, enfin presque en haut du classement. Donc c'est vrai, il y a toujours une sale dépendance. Mais comment veux-tu faire autrement quand tu as un tel joueur? De toute façon, c'est un problème de riche, hein, d'avoir une sale dépendance. Mais j'avoue que je partage un petit peu ton point de vue, mon cher Cyril.
On va se quitter parce que ça va être l'heure d'aller en Italie, mais on le sait, en Angleterre, la période des fêtes est très chargée. Est-ce qu'il y a une équipe qu'il faut surveiller particulièrement là, dans cette fin décembre, début janvier? Une équipe qui peut prendre un gros gadin ou à l'inverse qui peut faire la différence? Est-ce que tu as quelqu'un à surveiller, une équipe à surveiller?
Non, je dirais qu'il faut les surveiller toutes. J'ai regardé un petit peu enfin j'ai même regardé le programme en profondeur des principales équipes. Alors je te dirais une chose, c'est que attends-toi à un retour de Tottenham. Ça c'est une chose,
Ouais, parce que
hein.
Tottenham n'est pas du tout largué. Ils ont un tout petit point de retard sur City. Finalement, c'est encore solide.
Ah non, mais de toute façon, pour l'instant, il y a personne de complètement largué. Tu pourrais même imaginer que si tout d'un coup Manchester United faisait 4 ou 5 victoires
C'est vrai.
d'affilée, Manchester United pourrait se retrouver dans le top 4. C'est quand même hallucinant quand on voit leur performance depuis le début de la saison. Donc, non. Très honnêtement, bien évidemment, je pense que le match qui va donner le ton, qu'on attend tous avec tellement d'impatience, je l'ai déjà mentionné, c'est le 23 décembre. C'est le coup d'envoi de la période des fêtes, hein. Pas du Boxing Day. Le Boxing Day, c'est le 26 décembre, et
26,
seulement le 26
absolument.
décembre. Mais la période des fêtes, le 23 décembre, lorsqu'on a Liverpool qui reçoit Arsenal, là, ça va être le début de, je veux dire, des feux d'artifice. C'est un match absolument crucial. Si jamais Arsenal devait l'emporter à Liverpool, tu commencerais à dire, bon, les gars, ça
C'est
commence à
sûr.
sentir très, 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 très bon pour les Gunners.
Eh ben merci beaucoup mon cher Philippe. Bonne période de fête à toi aussi et à tous les amoureux du foot anglais évidemment. C'est à suivre sur eurosport.fr et sur l'application tout au long de cette période. On quitte le froid anglais et on retrouve le soleil italien. Et allez, on termine ce tour d'Europe par un détour en Italie. On retrouve Guillaume Maillard Pacini, notre spécialiste pasta et Serie A. Comment ça va, mon Guillaume, en ce lundi matin? Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu dans le tour d'Europe, hein.
Ça fait trop longtemps et je suis content d'être là dans cette semaine de Noël, Cyril. Donc,
T'es
donc
notre plus
voilà. Bon.
beau cadeau, Guillaume. Voilà, c'est ça qu'il faut dire.
Écoute, avec plaisir. Avec plaisir, j'ai beaucoup de choses à te dire aujourd'hui, Cyril, en tout cas, sache que.
Très bien. Alors, j'aimerais bien qu'on commence peut-être par l'image du week-end parce qu'il y en a eu plusieurs en Italie ce samedi et ce dimanche. Peut-être la première concernant Renato Sanchez et ce qui s'est passé de manière un peu surréaliste pour la Roma.
Écoute, même lui n'a pas compris honnêtement. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, on va résumer très rapidement. En fait, c'était lors du match Bologne-Rome, Cyril, hier, c'était dimanche à 18h. Et en fait, à la mi-temps, la Roma est menée. Mourinho décide de faire rentrer Renato Sanchez. Sauf que à la 58e, donc on va dire allez, 15 minutes plus tard, un peu plus, il décide de le ressortir. Donc le joueur, quand il voit le panneau s'illuminer, il dit non mais moi, et du coup, bah, c'était bien lui. Il sort du terrain. Du côté du but, et il revient vers son banc, pas un regard avec Mourinho, il s'assoit. Et après le match, Mourinho s'est excusé publiquement en disant, bah, c'était un choix que je devais faire, je sais que c'est compliqué pour le joueur. Il a dit, j'ai dû faire deux, trois fois ce genre de choses dans ma carrière, je suis désolé pour lui. Mais c'est vrai que pour Sanchez, Cyril, c'est encore un coup dur parce qu'on le rappelle, il est prêté par le PSG avec option d'achat pouvant devenir obligation.
Comme
Et
l'impression qu'elle va
honnêtement,
pas être levée, l'option d'achat.
non. Alors, elle peut devenir obligation selon un nombre de matchs joués, donc un minutage, on va dire. Mais honnêtement, entre les blessures, entre le rendement qui est vraiment pas bon, Mourinho lui envoie souvent des piques, et plus ce changement voilà, qui a eu lieu hier. Honnêtement, je peux t'assurer qu'en fin de saison, Renato Sanchez sera de nouveau un joueur de PSG sans grande surprise.
Alors, on va aussi parler peut-être du but du week-end, ou en tout cas de la passe décisive du week-end. C'est l'autre image, Guillaume, qu'on voulait évoquer aujourd'hui. C'est Osimhen avec une action maradonienne, on a presque envie de dire.
Exactement, le ballon d'or africain, Cyril, hein, faut le rappeler, hein, qui l'a remporté il y a quelques jours. Alors, c'est une passe D, probablement l'une des plus belles de la Serie A cette saison et même de l'année solaire 2023. Trois jongles voilà, on va dire, de la cuisse, Cyril, une espèce de talonnade. Alors, avec un peu de chance
Ouais, il
quand
y a un peu
même
de réussite. Ouais.
pour se l'amener. Et ensuite, il redresse parfaitement pour Kvara qui marque le but du 2-1 face à Cagliari, c'était samedi, et qui permet à Naples de gagner, on va dire, de reprendre un peu confiance en championnat. Mais voilà, Osimhen, tu le sais, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat, l'ancien meilleur buteur lors de l'année du titre du Napoli. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'était maradoniesque, parce que dès qu'il y a le maillot de Naples et qu'il y a cette espèce de passe magique ou de but incroyable, forcément, ça rappelle le grand Diego. Mais c'est vrai qu'Osimhen, quand il est comme ça,
Ouais,
voilà,
irrésistible.
il est difficile. Ouais, c'est assez exceptionnel.
Alors, tu nous as parlé du classement de Serie A, Guillaume. Une équipe plane toujours en tête, c'est l'Inter Milan. Pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Eurosport.fr ces derniers jours, tu avais consacré un article avant le match face à la Real Sociedad en affirmant que bah, cette Inter-là faisait peur à pas mal de monde et que ça, elle avait encore une gueule potentielle de demi-finaliste, voire de finaliste de Ligue des Champions. On a encore vu à quel point cette équipe planait au-dessus de l'Italie dimanche avec cette victoire face à la Lazio 2-0. L'Inter a souffert, mais l'Inter est clinique devant et c'est illustré par ce duo incroyable entre
Ouais.
Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Raconte-nous un peu tout ça.
Bah écoute, déjà l'Inter, c'est une équipe, c'est vraiment, c'est en Italie, on appelle ça un peu le char armé, tu sais, c'est un rouleau compresseur qui roule sur tous ses adversaires, ils battent tous les gros. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Vu l'Italie, la performance de l'Inter et la saison vraiment qui est en cours, ils ont fait un petit trou, c'est le premier avec la Juve, ils ont plus 4 points. Et surtout, tu l'as dit, le duo Thuram-Lautaro. Alors nous en Italie on le surnomme le Tula. Alors tu sais en Italie on adore ce
Ouais,
genre de
bien
surnom de
sûr.
contraction entre deux joueurs. Il y avait la Lula avec Lautaro Lukaku et là il y a la Tula du coup Thuram Lautaro. Honnêtement c'est un duo qui marche à merveille. C'est 22 buts à eux deux en championnat Cyril. Lautaro c'est le meilleur buteur du championnat. Thuram c'est le meilleur
Passeur,
passeur.
ouais.
Donc tu vois déjà voilà ils dominent tous les classements. Ils ont marqué à eux deux. Alors, je l'ai dit, 22 buts. Et sur le total de buts de l'Inter, donc l'Inter, la meilleure attaque de Serie A, ils sont impliqués les deux dans 56% des buts. Donc, c'est pour te dire que c'est vraiment un
Ouais, ok.
duo qui marche sur la Serie A, honnêtement. Et c'est un duo. Aujourd'hui, l'Inter ne peut pas s'en passer, on l'a vu. En Ligue des Champions, t'en parlais juste avant, Inzaghi n'a aligné ce duo qu'une fois. Et pour te dire,
D'accord.
ils sont arrivés deuxième du classement, du coup. Donc, il
Ok.
y a une espèce de roulement qui a été fait. Et on sent bien que si tu fais jouer Thuram Lautaro ou Arnautovic Sanchez, qui sont les deux remplaçants, honnêtement, ce n'est pas du tout la même équipe.
Ok.
Avec Thuram Lautaro, c'est une équipe, honnêtement, qui peut gagner en Italie, qui peut gagner en Europe, qui peut gagner vraiment partout. Sans, c'est beaucoup plus faible, du moins devant. Mais oui, c'est le duo, pour moi, le plus fort d'Italie, il n'y a pas beaucoup de doute. Peut-être l'un des duos les plus forts en Europe. Et honnêtement, ouais, c'est remarquable et personne n'aurait pu penser que
Ouais,
Thuram aurait un tel impact dès sa première saison.
j'allais y venir parce que c'est vrai que bon, on a l'habitude avec l'Inter des duos d'enfer. Tu l'as dit, Lula avec Lautaro Lukaku. Il y a eu aussi Dzeko pendant un temps. Voilà, Lautaro,
Oui, c'est vrai.
on sait qu'en duo ça marche souvent très bien. En revanche, on s'attendait peut-être pas en Italie à avoir un Marcus Thuram aussi affûté, aussi décisif, aussi impactant depuis son arrivée.
Tu sais, Lautaro, on a parlé hier au micro de DAZN où il a été interrogé après la victoire contre la Lazio et où on l'interrogeait, mais est-ce que vous vous attendiez à un impact aussi fort de Marcus Thuram?
Ouais.
Et lui a dit, bah, pas du tout. Il a dit par rapport à
D'accord.
Lukaku qui était très statique. C'est vrai que Lukaku, alors ils étaient amis à l'époque, maintenant ils ne le sont plus trop, mais dans leur duo, c'est vrai que Lukaku, c'était un peu, tu sais, la pierre
Ouais,
angulaire.
bien
Il
sûr.
canalisait tous les défenseurs et du coup, Lautaro gravitait autour. Et là, Lautaro a dit hier, non mais Thuram, il fait tout. Il prend le ballon, il est capable, il est très mobile, il prend la profondeur, il fait du pivot. Et hier, contre Ajaccio, il a été élu homme du match, Thuram, parce qu'il était encore une fois très impressionnant.
Ouais.
Mais c'est vrai que tu vois, même Lautaro est impressionné par l'impact de Thuram. Alors évidemment, c'est le meilleur début de saison de la carrière, de la jeune carrière, on pourrait dire, de Marcus Thuram. Il s'impose aussi, Cyril, petit à petit en équipe de France.
Ouais.
Il a marqué son premier but en bleu il y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a eu cette chance aussi, c'est de l'adaptation. C'est un joueur qui, bah, tu le sais, qui est né à Parme, à l'époque où son père jouait avec l'équipe de Parme. Donc, il parlait déjà la langue. Donc, forcément, ça a facilité la chose. L'Inter est parvenu à l'arracher à l'AC Milan, qui semblait quand même pouvoir le recruter. Mais il y a une espèce de pacte entre les dirigeants de l'Inter et Thuram. Et ça a fait que
Ouais,
Marcus a
Thuram,
décidé.
Thuram l'a longtemps expliqué, hein, c'est que ça faisait
Oui.
plusieurs années que l'Inter lui tournait autour, plusieurs années qu'il voyait en lui un vrai numéro 9, contrairement à d'autres entraîneurs qui l'imaginaient peut-être plus sur un côté. C'est pour ça que son choix s'était porté sur l'Inter.
Ouais, et notamment pendant sa blessure, où les gens de l'Inter l'ont accompagné, ils l'ont aidé, ils prenaient des nouvelles, et ça l'a marqué positivement. Et non, honnêtement, Marcus Thuram, c'est une déflagration en Serie A. Et encore une fois, tu vois, tout à l'heure, je lisais la presse italienne. Aujourd'hui, lundi, le lendemain de la victoire contre l'Ajaccio, tout le monde est impressionné par ce qu'il est capable de donner. C'est le meilleur passeur. Il a 7 buts en Serie A et 6 passes décisives. Donc, c'est probablement la plus grande surprise de ce début de saison, tellement c'est vraiment impressionnant de la part de Thuram. Et le duo vraiment de Lautaro, ça aide dans ce rouleau compresseur qu'est l'Inter et qui aujourd'hui, honnêtement, est lancé vers le Scudetto, qui serait le premier de Simone Inzaghi en tant qu'entraîneur et peut-être même ancien, Cyril, parce que l'Inter aujourd'hui, elle a fait finale la saison dernière. Alors, elle est arrivée deuxième en phase de poule, c'est vrai, mais voilà, c'est une
Ouais,
équipe
c'est un deuxième qu'il
qui
faut pas
pourra dire son
tirer.
nom.
Ouais, c'est
Ah
un
non.
deuxième qu'il faut pas tirer.
Ah ouais.
Je peux vous dire que dans les grands clubs européens, ils regardent un petit peu évidemment le Paris Saint-Germain avant ce tirage au sort ce lundi, mais aussi l'Inter qui est vraiment le
Alors, moi,
club à ne
Cyril,
pas avoir.
honnêtement,
Ouais.
si j'étais une grande équipe,
Ouais, t'as
je
plus peur de
préfère tirer
l'Inter.
aujourd'hui le P...
Ouais, bien sûr.
Ouais, je préfère tirer le PSG aujourd'hui que l'Inter. Parce que l'Inter, même Guardiola l'a dit, il avait dit en finale, c'était hyper compliqué. On se souvient, la finale contre City, ça avait été hyper dur. Simone Inzaghi est un très bon technicien. Voilà, alors voilà, ça va être un peu son couronnement s'il gagne le titre. Mais aujourd'hui, quand on voit un peu le PSG qui est un peu, on va dire, qui est en train d'un peu de. Voilà, faut que la mayonnaise prenne encore avec Luis Enrique. L'Inter, vraiment, les tirer en tant que deuxième, ce serait hyper compliqué pour n'importe quel premier. Donc, voilà, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que l'Inter puisse aller très loin dans cette C1.
Eh ben merci beaucoup mon cher Guillaume, on en profite pour te souhaiter de belles fêtes et on en profite pour souhaiter
À
de
vous
belles
aussi?
fêtes aussi à tous nos auditeurs du podcast et à tous ceux qui regardent les vidéos de Tour d'Europe tous les lundis. Tour d'Europe va faire une grande pause puisque Tour d'Europe reviendra pour le mois de février et le retour de la compétition européenne et des compétitions européennes, en l'occurrence la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. D'ici là, vous retrouverez sur Eurosport des vidéos débrief, mercato, puisque vous le savez, en janvier, il y a du mercato. Portez-vous bien, passez de bonnes fêtes et suivez le football européen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.